monumental. Monumental, Joanne Ducey. Réalisation, Christian Morero.
Sur la côte nord de l'Égypte, juste à l'ouest du Nil, là où le désert rejoint la Méditerranée, trône l'élégante mais terne ville moderne d'Alexandrie. Mais le mythe d'Alexandrie réside dans son passé, pas dans son présent. Pendant 20 siècles, on résonnait dans ses rues les voix des personnages les plus célèbres de l'histoire. C'est ici qu'est née l'une des plus belles histoires d'amour du monde, celle d'Antoine et Cléopâtre.
Voilà, bonjour, je suis le professeur Charles Mella et je m'occupe de l'exposition d'Alexandrie la Divine comme directeur de l'exposition.
Bonjour, je suis Frédéric Maury, je suis commissaire de l'exposition Alexandrie la Divine et photographe.
Alexandrie, c'est vraiment une ville mythique.
Elle est mythique dans la mesure où il y a aussi toute une... D'abord, elle a couvert, on peut dire, une existence considérable de plusieurs siècles. Et la légende qui est née autour d'Alexandre a évidemment aussi contribué à ce mythe de la ville d'Alexandrie. Alexandre fait savoir que, comme il dormait en appuyant sa tête sur un coffret qui contenait Homer, l'Iliade et l'Odyssée, un manuscrit que Aristote lui avait établi, eh bien, pendant la nuit, en songe, il voyait surgir un vieillard, et ce vieillard lui disait, il y a l'île de Pharos, et donc quand il est arrivé en Égypte, et en dehors de l'Égypte à Alexandrie, il a à ce moment-là eu l'idée de créer cette nouvelle ville.
Quand il eut conquis l'Égypte, Alexandre voulut bâtir une grande cité, la peupler de très grands nombres d'habitants, tous grecs, et la nommer de son nom. Il était déjà tout prêt à tracer en certains lieux, mais la nuit, il eut une vision merveilleuse. Car il lui fut avis qu'il se vint présenter devant lui un personnage ayant les cheveux tout blancs de vieillesse, avec une face et une présence vénérables, lequel, s'approchant de lui, prononça ces vers. Une île Iliade dans la mer profonde, tout vis-à-vis de l'Égypte féconde, qui par son nom, Pharos, est appelée.
Plutarque, la vie des grands hommes, Alexandre le Grand.
Vous serez d'accord avec moi si je dis que finalement elle est mythique, tout le monde connaît le nom d'Alexandrie, mais finalement c'est une ville assez méconnue.
Mais son histoire d'abord couvre à peu près 1000 ans, et pendant 1000 ans elle a été la capitale du monde. On a des périodes assez différentes. C'est à Alexandrie que la civilisation de l'Égypte ancienne finit son histoire, que le christianisme commence la sienne, puis l'islam après. Donc on a un petit peu tout, c'est un petit peu le point foyer de notre histoire. Alors, pour bien connaître Alexandrie, il faudrait déjà savoir quelle Alexandrie on veut connaître, si c'est celle des premières décennies, si c'est celle qu'Alexandre a vue en songe, si c'est celle des dernières écoles de médecine et de philosophie quand les Arabes arrivent. Finalement, tout ça, c'est un emboîtement de mondes, de périodes, de civilisations, de personnalités très, très, très différentes. Finalement, il n'y a pas une Alexandrie, il y a des Alexandries. Sans parler de l'Alexandrie du 19e siècle, qui est encore un phénomène assez différent, mais en même temps, qui a des points communs. Enfin, tout ça, c'est un emboîtement de mondes.
Il est aux portes de l'Égypte, une ville dont le nom suffit à embraser la mémoire des hommes. Alexandrie.
Oui, et puis dans les études classiques, on peut dire qu'on privilégie toujours le 5e siècle athénien. Après, on privilégie la République romaine et puis Auguste. Et donc, la période hellénistique, la période des Ptolémées, n'est pas réellement abordée ni étudiée. Or, c'est là que quelque chose d'extraordinaire s'est constitué et s'est créé.
Elle n'est pas tellement étudiée, effectivement, le période ptolémaïque. Les raisons les plus apparentes, c'est que ce serait une période de décadence pour la civilisation grecque par rapport au 5e siècle, parce qu'on n'est plus sous Périclès, on n'est plus dans l'Athènes parfaite, le Parthénon, le nombre d'or, etc., l'invention de tout. On serait dans une sorte de mondes rongés par l'argent, la cupidité, les complots politiques. Mais au fond, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que c'est surtout parce que c'est une période qui est extrêmement difficile à étudier, déjà. Et pourtant, c'est paradoxal, parce que c'est à Alexandrie qu'on a établi l'édition de tous les textes de la Grèce classique, finalement. Donc on connaît tout ce qu'on connaît de l'Athènes, de Platon, de Périclès et autres, on le connaît grâce au travail des bibliothécaires. Donc c'est un paradoxe, un de plus. pourtant, c'est une période fascinante pour le développement des sciences. Par contre, alors oui, ça c'est différent. Pendant l'histoire des sciences, Alexandrie est beaucoup plus importante que la Grèce classique, parce que c'est vraiment là qu'on a fait les découvertes les plus fondamentales à l'époque. Ouais. Il y a aujourd'hui encore des découvertes qui stupéfient les gens quand on leur explique certaines inventions qui sont...
Oui, Ératosthène, qui était un des directeurs de la bibliothèque d'Alexandrie, avait calculé à l'altitude d'Alexandrie la circonférence de la Terre, les 33 000 et quelques kilomètres. Euclide, c'est un alexandrin. Mm-hmm. La mécanique, c'est aussi à Alexandrie qu'on la trouve. Oui.
Ils avaient inventé des systèmes d'ouverture et de fermeture automatique des portes, avec un système hydraulique, mais des portes des temples, qui pesaient des tonnes. Alors il y a aussi tout un tas d'inventions très pratiques. C'était un petit peu la Silicon Valley de l'Antiquité. Il y avait des sommes colossales qui étaient injectées dans la recherche, dans la bibliothèque, pour débaucher les meilleurs chercheurs. Ça, c'est un aspect très moderne. C'est la naissance du monde moderne, en ce sens-là. On parle souvent de la bibliothèque. On a la fascination du livre. Et puis, c'est à Alexandrie que naît vraiment la civilisation du livre, avec l'invention de la philologie, comment établir un texte de référence, etc. Mais on oublie souvent ce côté... parce qu'on ne sait pas souvent que c'est pas seulement la civilisation du livre, c'est la civilisation des techniques. C'est la civilisation de la science qui naît là-bas. Et c'est aussi la civilisation de la recherche. Finalement, qu'est-ce qui change? C'est surtout la mise en réseau à l'échelle mondiale pour l'époque des savoirs, des recherches. Les gens s'écrivent entre Athènes, entre l'Asie mineure, entre la Sicile. On s'écrit des lettres. Il y a eu toute une correspondance entre Archimède et les savants alexandrins. Archimède vient là-bas, invente la vie saou en Égypte au bord des canaux, repart là-bas, écrit, et on s'échange les résultats. En fait, on fait déjà ce qu'on fait en Europe depuis la Renaissance ou après la Renaissance. C'est-à-dire, on ne garde pas pour soi ces découvertes, mais on en fait profiter les autres. Il y a une sorte de communauté qui se crée. Et Alexandrie, à l'époque, c'est le cœur de tout ça. Parce que après, c'est à Alexandrie qu'on va recueillir toutes ces inventions. C'est à Alexandrie qu'on va publier des corpus de référence en médecine, en géométrie, en philosophie, bien sûr, puis bien sûr en littérature.
Alexandrie a été le carrefour des grandes civilisations de l'Ancien Monde. Elle devint aussi la première ville moderne grâce au génie de son fondateur, Alexandre le Grand.
Extrait du documentaire « Vestiges engloutis d'Alexandrie ».
À Alexandrie, il y a la confusion un petit peu de tous ces éléments modernes. Finalement, quand on regarde Alexandrie, on a envie de lire déjà dans cette histoire la nôtre. Donc les sciences, les techniques, la raison, l'argent, beaucoup d'argent, Alexandrie énormément, le commerce mondial, la mondialisation du commerce et des échanges. Ça, c'est aussi Alexandrie c'est aussi là-bas que ça s'invente. Mais peut-être il faudrait pas oublier aussi cet aspect onirique, cet aspect mystique qui est présent tout au long de cette histoire. Parce que, comme Charles le disait tout à l'heure, la fondation mythique d'Alexandrie se fait par un rêve. Ça, Homère lui-même, le vieillard barbu qui vient indiquer à Alexandre l'emplacement non seulement de la ville, mais celui des remparts. Et puis ces médecins qui pratiquaient l'anatomie, qui inventent la circulation du sang, qui découvrent comment pratiquer les opérations orthopédiques d'une complexité assez sidérante pour l'époque. Finalement, il y a aussi cette prééminence du religieux qui est d'une complexité énorme pour nous, parce que ce monde a disparu, mais qui est là.
Aurilia, en avant de l'Égypte, dans la mer aux nombreuses houles, une île qu'on appelle Pharos. Elle n'est éloignée que d'une pleine journée de marche d'un vaisseau creux s'il a en poupe le souffle de la brise fraîche. Et là se trouve un port au bon mouillage, d'où on lance vers la haute mer les nefs bien équilibrées quand elles ont fait leur provision à l'égade profonde.
Homère, l'Odyssée.
Quand tu auras franchi le seuil de la porte, quand tu auras enfin fait ce grand pas, quelques frusques et quelques fripes pour qu'on sorte, que tu sortes de cette impasse-là.
Dick Anagarn, Oracle.
Tu n'as pas la tête d'un soldat, ni le corps non plus, aucune trace ni cicatrice. Tu n'as pas l'allure d'un baba, tu n'es pas si cool. Même si tu prends l'armistice, tout abandonner n'est pas du tout facile. Même si d'autres s'y sont frottés avant toi, être fou allié peut être même habile pour saisir ce que ta liberté t'octroie. Tu n'as pas la tête d'un soldat, ni le corps non plus, aucune trace ni cicatrice. Tu n'as pas l'allure d'un baba, tu n'es pas si cool, même si tu prends de l'armistice. Obstrué d'obstacles, c'est que l'eau esquive la pierre sur sa voie. Si tu vois la voix de l'oracle, c'est qu'aucun des doux devins ne devinera que tu n'as pas la tête d'un soldat, ni le corps non plus, aucune trace ni cicatrice. Tu n'as pas l'allure d'un baba, tu n'es pas si cool, même si tu prends l'armistice. Quand tu auras franchi le seuil de la porte, quand tu auras enfin fait ce grand pas, quelques frusques et quelques flips pour qu'on sorte, que tu sortes de cette impasse-là.
Après s'être emparé de l'Égypte en 331 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand décida de bâtir une somptueuse cité qui porterait son nom. Alexandrie.
RTS Archives.
La cité connut un essor commercial et culturel sans égal. La ville se couvrit de nombreux monuments qui font aujourd'hui encore l'objet de fouilles.
Les travaux d'Alexandrie, comment est-ce qu'ils étaient financés à l'époque? C'est beaucoup d'argent tout de même.
L'Égypte était immensément riche.
Charles Mellat, directeur de l'exposition Alexandrie la Divine.
Et Ptolémée, le général d'Alexandre, en choisissant pour comme royaume l'Égypte, avait la main heureuse. Ça deviendra le grenier à blé de tout l'empire gréco-romain. La fondation d'Alexandrie la situe au croisement de toutes les routes d'Orient, d'Occident et inversement. Donc depuis le poivre indien ou de l'autre côté l'ambre de la Baltique, ça va passer par Alexandrie. C'est une ville du luxe également. Les artisans sont absolument remarquables. Donc c'est une ville qui est extrêmement riche, au confluent de toutes les cultures, de toutes les différentes populations. Et c'est cette richesse-là que les Ptolémées vont exploiter et dont se réclamera Cléopâtre. Pourquoi César et Marc-Antoine voulaient à tout prix passer par l'Égypte? Parce qu'à partir de là, ils pouvaient payer leur légion. Et ça a failli marcher, hein, si Cléopâtre l'avait emporté.
Cléopâtre est née au palais royal d'Alexandrie. Très volontaire et d'une grande éducation, elle n'avait que 18 ans quand elle devint reine d'Égypte. Pendant plus de 2000 ans, Cléopâtre est restée la séductrice la plus célèbre de l'histoire, immortalisée par Plutarque, William Shakespeare et Hollywood.
Il n'y avait pas que sa beauté qui était remarquable. Son esprit aussi était irrésistible. Les attraits de son physique, s'ajoutant au charme de sa conversation et à l'incomparable qualité de ses paroles ou de ses actes, avaient quelque chose d'ensorcelant.
On a souvent une vision un petit peu irénique, un peu idéaliste comme ça d'Alexandre le Grand et de son œuvre, hein, d'unifier toutes les populations, de les faire vivre
avec des habitants variés, de toutes les origines, quelque chose dans la notion de vivre ensemble, hein, finalement.
Oui, oui, mais dans les faits, Alexandre, c'est la phalange, c'est la cavalerie, c'est la rapine, c'est le pillage, c'est raser des villes, mettre la main sur les trésors royaux.
Frédéric Maury, commissaire de l'exposition Alexandrie la Divine.
Les diadoques, les successeurs, sont des gens riches. Immensément riches, parce qu'ils ont mis la main sur des domaines absolument considérables en 10 ans. Toute l'aristocratie macédonienne gouverne le monde, c'est-à-dire le monde pour l'époque, c'est tout l'empire de Darius qu'ils ont rétabli, parce qu'en fait ils sont allés jusqu'en Inde parce que l'empire de Darius y allait, ils n'ont pas découvert ces pays. Et donc ils ont rétabli ce monde immense et ils ont pillé ce monde aussi. Hein. Ils ont placé leurs sbires, si j'ose dire, à la tête de chaque province et ils ont extrait de ces provinces des richesses absolument colossales. Alors quand Ptolémée, qui effectivement, comme Charles le disait, est probablement le plus intelligent de la bande,
oui,
réclame et obtient l'Égypte. L'Égypte a une double caractéristique, hein, c'est qu'elle est à la fois la terre la plus riche avec Babylone, avec la Babylonie, en fait, avec le, c'est tout le croissant fertile, mais contrairement à l'Irak actuel, donc la Mésopotamie, l'Égypte est à l'abri, à l'abri des Parthes qui viendront envahir tout ça. Donc lui, il est à l'abri, et puis il met la main sur une terre extrêmement riche. Enfin, c'est d'abord Alexandre, et puis sur le trésor des pharaons, qui certainement aussi colossal. Donc ajouter tous les butins de guerre accumulés par Alexandre, puis par Ptolémée, puis la richesse naturelle du pays, et puis après, dès que les choses se mettent en place, par les impôts, parce que tout ce trafic est taxé, et puis finalement, vous allez obtenir des résultats en termes financiers qui sont sans commune mesure avec tout ce qu'on a vu dans l'Antiquité jusque-là.
Autrefois, ville la plus somptueuse du monde, Alexandrie exhibait des bâtiments faits de marbre luxueux, des avenues parées de colonnades et de superbes palais. C'était un travail d'artiste à ciel ouvert, aussi impressionnant qu'à Rome ou Athènes.
Alexandrie, c'est une ville qui a surgi en quelques années à partir de rien du tout.
C'est à peu près ça, oui. C'est intéressant parce qu'Alexandrie est un site à peu près vierge. C'est un petit peu comme... Bon, ça partage quelques caractéristiques avec Venise, parce que les villes sont très liées, en tout cas dans la légende. C'est-à-dire que c'est des villes improbables. C'est des villes qu'on ne verrait pas naître à l'endroit où elles ont été développées. Venise, évidemment, parce que c'est sur l'eau. On bâtit un mirage, on bâtit sur l'eau et puis c'est toujours debout. Et Alexandrie parce que c'est une terre très dangereuse pour la navigation. Il y a beaucoup de récifs et les amers sont pas du tout sécurisés. Hein. C'est pour ça qu'on construit Alphare notamment. Hein. Donc pourquoi aller construire un port mondial qui va devenir aussi important que Hambourg en Europe, hein, à la limite, à un endroit où la navigation est extrêmement dangereuse. Alors, donc ça c'est un premier paradoxe. Mais en fait, on va appliquer là des recettes qui sont déjà connues, qui ont été développées par les Grecs, notamment à Priène ou à Milet. C'est-à-dire qu'on va, puisque la terre est à peu près vierge, on va raser le village de pêcheurs qui existe sur l'île de Pharos. Et après, on va développer, grâce aux techniques de construction des Macédoniens, parce que les Macédoniens à l'époque étaient déjà ce que les Romains vont devenir, c'est-à-dire de très grands techniciens. Et donc, ils vont tracer des plans sur un terrain à peu près vierge, avec un plan en damier très rigoureux, avec beaucoup d'espace, beaucoup de clarté et des moyens colossaux. C'est-à-dire qu'on va en assez peu de temps voir s'élever les murailles et puis, grâce à ces techniques de construction systématiques, construire à peu près en même temps un tissu urbain, peut-être deux décennies, qui va déjà ressembler à une ville colossale.
Il y avait donc des principes urbanistiques dès le départ, dès le début de la construction.
Oui, bien sûr.
Il y avait à la fois des travaux pour des monuments exceptionnels et également ce quadrillage de la ville, les réseaux de canaux. Parce que Alexandrie était quand même, c'est pour ça que le choix était intéressant, Alexandrie n'appartenait pas directement à l'Égypte. On disait Alexandrie vers l'Égypte. L'Égypte, c'était le long du Nil, mais l'embouchure du Nil s'envase. Le choix d'Alexandrie était un choix absolument génial parce que, en raison des courants d'ouest et des vents d'ouest, l'endroit même ne s'envasait pas. Donc Alexandre fait construire à ce moment-là une digue, fait construire deux ports, laisse passer l'eau de part et d'autre de la digue, fait construire le phare, et du même coup, il crée un port qui va pouvoir être le débouché par les canaux qui partent du Nil vers la Méditerranée. Donc il ouvre un port nouveau. Il ouvre l'Égypte en fait à la circulation maritime du monde. Alors quand même, quand on pense que les armateurs indiens envoyaient leurs marchandises qui arrivaient de la mer Rouge, débarquaient là, les caravanes sécurisées, les amenaient jusqu'au Nil, descendaient après le Nil, passaient par les différents canaux, arrivaient à Alexandrie, et là de nouveau étaient en transit. Les marchandises étaient soit travaillées sur place, soit en transit. Donc c'est une ville qui a atteint quand même 500 000 habitants, donc autant que ce que Rome atteindra par la suite. C'est vraiment une mégapole. Et c'est la première, comme disait Frédéric, c'est la première grande mondialisation. C'est ça qui est intéressant pour nous dans Alexandrie.
I'm
César l'Égyptien, Hugues de Courson. Aujourd'hui, Alexandrie.
Ptolémée, ami et général d'Alexandre, prit possession de l'Égypte, s'autoproclama roi et fit d'Alexandrie sa capitale. Ptolémée Ier engagea rapidement de grands chantiers. La grande bibliothèque et le musée d'Alexandrie demeurent ses œuvres les plus pérennes.
Oui, c'est ce qui est fait évidemment le prestige d'Alexandrie, ça a été la décision qui a été prise d'entrée de jeu par les Ptolémées dans l'esprit au fond de que les Grecs avaient nourri par Aristote, qui était de créer ce qu'ils appelaient le musée. Le musée, c'est un centre, ça n'a pas le même sens que celui que nous donnons maintenant, c'est un centre de recherche dans lequel travaillent les plus grands savants de l'époque, qui sont entretenus aux frais de l'État, à la disposition desquels on met une bibliothèque qui réunit tous les livres et tous les savoirs du monde. Donc c'est vrai que cette idée à ce moment-là de créer un lieu de la recherche et du savoir a fait aussi la gloire d'Alexandrie. Ça c'est extrêmement important.
Des salles luxueuses bordées par un promenoir, une exèdre, donc un petit monument en arc de cercle muni de sièges, ainsi qu'une grande salle de réunion dans laquelle grammairiens, philologues, astronomes, physiciens, géographes, médecins, philosophes, poètes, musiciens, peintres se réunissaient régulièrement autour d'un repas pris en commun. Une fabrique de papyrus et un atelier de copistes permettaient aux enseignants de se procurer facilement les textes et de les divulguer.
Description de la bibliothèque, Strabon.
Elle était comment cette bibliothèque ? Est-ce qu'on a des informations là-dessus ?
La bibliothèque n'a certainement pas grand-chose à voir avec ce qu'on peut imaginer aujourd'hui d'une bibliothèque. Enfin, il y a eu quelques reconstitutions qui ont été tentées. C'est pas quelque chose de démesuré et d'immense. Hein. C'est simplement, c'est des bâtiments qui étaient probablement assez simples et fonctionnels, structurés autour du musée, hein, puisque la bibliothèque c'est une annexe du musée. C'est un entrepôt de papyrus. Hein. Le lieu de diffusion du savoir, c'est le musée, qui était une institution un peu universitaire, un peu de recherche, et les chercheurs qui étaient affiliés là, financés, payés uniquement pour faire leur recherche, pas pour donner des cours, il n'y avait pas de cours, pouvaient avoir accès à des réserves qui étaient colossales pour l'époque, hein, peut-être 30 000, 40 000, 50 000 rouleaux. Bon, il y a des œuvres qui prennent plusieurs rouleaux. Hein, mais voyez, c'est moins grand qu'une bibliothèque cantonale aujourd'hui. Hein, c'est pas...
Il y a plus de 2000 ans, c'est sans doute ici que se trouvait le plus important centre culturel du monde. C'est ici, autrefois, que les hommes découvraient la dimension de l'univers et le nombre des étoiles. Il y avait des laboratoires, des jardins, des écoles de médecine et une bibliothèque qui a formé certains des esprits les plus brillants que le monde ait jamais connus. Ces bâtiments abritent peut-être encore des savoirs ignorés, vieux de centaines de siècles. C'est dans ces vieilles galeries qu'ont été semées les graines de notre culture.
Cette bibliothèque, c'était un lieu d'inspiration pour les écrivains ?
Oui, alors là, il y en a aussi on est un petit peu dans le mythe, parce qu'elle était sous l'égide des muses, des muses qui chacune présidaient à l'exercice d'une discipline. Alors, il y avait des véritables cultes religieux. Ils étaient célébrés en l'honneur de ces muses qui étaient censées inspirer ceux qui s'adonnaient aux différents arts, donc ça c'est intéressant. Et le directeur de la bibliothèque était garant du culte des muses aussi, donc il y a aussi cette dimension-là.
Et certains directeurs étaient même de très grands poètes, comme par exemple Callimaque, qui était le plus grand poète de la période hellénistique. D'ailleurs, c'est lui qui a fait établir le texte d'Homère.
Ouais, c'était aussi il y a l'équivalent aujourd'hui un petit peu, vous savez, ces personnages qui sont marchands de livres, mais de très haut vol, et qui vont courir tout le monde entier pour aller chercher l'édition qu'on leur a commandée et qui vont revendre une fortune. Bon, là, indépendamment de l'argent, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que les directeurs étaient en charge de la... Enfin, en tout cas, les premiers, à l'époque où les Ptolémées donnaient sans compter, de trouver le bon papyrus de l'œuvre en question qui manquait. Et là, les directeurs appuyés par le pouvoir, pouvaient dépenser des sommes absolument exorbitantes ou alors appliquer des procédés pas toujours très honnêtes pour obtenir des Athéniens ou d'autres citoyens grecs le bon papyrus. Hein. Il y a des anecdotes comme ça, assez intéressantes. Il y a celle du... Là, il n'y avait pas encore la bibliothèque, le corpus des tragiques athéniens, des Sophocle, Euripide, tout ça. Alors, vous savez que le théâtre, à l'époque, avait un rôle stratégique dans la cité parce que il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas Internet. Et en même temps, il n'y avait pas l'école obligatoire. Donc, comment à la fois divertir, comment instruire et comment inculquer aux gens les bonnes vertus. On pensait qu'une cité tenait par l'exercice de certaines vertus et par le partage de valeurs. Et ça, on le transmettait par le théâtre. Parce qu'on pensait que le théâtre avait une vertu comme ça, de catharsis, bref, bon, on va faire un cours sur le théâtre. Mais donc, du coup, il était absolument stratégique de pouvoir obtenir des manuscrits de référence de ce corpus-là, de ces pièces de théâtre qu'on pouvait après faire jouer par les acteurs. Et les Alexandrins ne l'avaient pas, donc ils ont demandé aux Athéniens, qui conservaient jalousement leur trésor chez eux.
Le grand exemplaire officiel des tragédies. Ouais. Ils le font venir en payant une caution monumentale pour cela. Et donc, une fois que le manuscrit est arrivé, ils le font copier. Et bien sûr, ils rendront la copie, garderont l'original, perdront la caution, aucune importance. Ils avaient l'original.
Les visiteurs arrivent avec leur version de texte ancien célèbre. On envoie des émissaires à l'étranger pour rapporter de nouvelles œuvres. Des manuscrits font parfois partie de donations. La bibliothèque d'Aristote, par exemple, a été léguée à celle d'Alexandrie.
On raconte aussi qu'une loi prévoyait que tout voyageur qui jetait l'ancre dans le port d'Alexandrie devait être fouillé. On ne recherchait pas la drogue, mais les livres. Si on trouvait un ouvrage, il était envoyé à la bibliothèque.
It was confiscated and the traveler was compensated.
Si l'établissement n'en possédait pas de copie, il était confisqué et le voyageur recevait une compensation. Les dirigeants d'Alexandrie faisaient des choses extraordinaires pour acquérir des ouvrages. Le plus souvent, bien entendu, ils les achetaient. Il y avait de nombreux marchés aux livres. C'est ainsi qu'Alexandrie a acquis la plus grande collection de livres du monde antique.
Mais l'idée, c'était quoi? D'être la bibliothèque mondiale?
Oui, je pense.
C'est ce qu'on dit. Hein. On dit tellement de choses, mais c'est ce que disent les textes. Hein. Tous les savoirs du monde, c'est une expression assez fameuse.
Oui.
Mais en fait, dans les faits, c'est d'abord les savoirs grecs, parce qu'on dit tous les savoirs du monde, mais il faudrait déjà que le monde ait des savoirs à partager par écrit et qu'on en comprenne la langue. Alors ça, c'est aussi un débat qui n'est pas terminé, parce qu'on pense encore aujourd'hui qu'il n'y avait que des livres grecs là-dedans. Donc, à la limite, on aurait pu faire traduire certaines choses. Mais ce qui les intéressait, au premier chef, c'est d'abord les savoirs grecs, dans tous les domaines, mais grecs.
Selon Plutarque, la bibliothèque a été détruite accidentellement par le feu qui ravageait le port. Certains historiens modernes pensent que les réserves contenant une partie des ouvrages a été détruite.
Cette bibliothèque, elle a disparu?
Oui, là, l'histoire de la destruction de la bibliothèque est complexe. On commence avec César, lorsque pour essayer d'éviter d'être, on peut dire, coincé à Alexandrie quand il est avec Cléopâtre, fait incendier les bateaux et le feu se communique à une partie des bâtiments ou des entrepôts. Donc il y a une partie qui brûle à ce moment-là. Il y a au IVe siècle le moment où les moines chrétiens assez fanatisés s'en prennent. Il y a un très beau film là-dessus qui s'appelle Agora, s'en prennent précisément à la bibliothèque d'Alexandrie, à la fameuse mathématicienne et philosophe qui était Hypatie, qui était la fille du directeur de la bibliothèque de l'époque, Théon d'Alexandrie, auquel on doit d'ailleurs la compilation de l'ensemble du corpus de la géométrie grecque. Et donc ils vont saccager, ils vont mettre en pièces Hypatie et saccager une partie des livres. Il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus, et puis il y a aussi les différents séismes qui ont dû se produire. Donc en fait, c'est une destruction. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a eu une destruction en une fois.
Non, c'est progressif.
C'est progressif, en réalité.
Ouais. Oui. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est que la bibliothèque d'Alexandrie ait pu exister, que les Ptolémées aient décidé de subventionner ce groupe d'érudits qui ne servait en rien à l'économie grecque et ne rapportait pas d'argent, n'amélioraient pas le mode de vie des Ptolémées. Pourtant, ceux-ci ont continué à apporter leur soutien. Ils avaient le goût de la connaissance, et ça, c'est merveilleux.
Aujourd'hui, la bibliothèque du monde méditerranéen a été construite sur les ruines de la bibliothèque d'Alexandrie. Il y a 2000 ans, ici, des grands esprits venus de partout travaillaient ensemble à résoudre les mystères de leur époque. Alexandrie est également à l'origine de l'art moderne.
Dominique A. par les lueurs.
Et soudain, par les lueurs, nous voilà traversés. Par les lueurs, oh soudain, par les lueurs, nous voilà traversés. Par les lueurs, les infrarouges ne détectent rien, aucune chaleur, personne qui vient. Sur le chemin de pierre cendrée, un matelas posé par erreur. Et soudain, par les lueurs, nous voilà traversés. Par les lueurs, ma planche, mon âme, l'heure qui s'est déposée est-elle de palme? Provient-elle d'iris saturés? Rien, je sais rien. Tous les photons m'ignorent, ceux qui les ont croisés en parlent encore. Soudain, par les lueurs, les voilà traversés. Par les lueurs, oh soudain. J'aurais préféré rien savoir de bon cœur, rester dans la cour envasée, mort de peur qu'on vienne m'éclairer. J'ôte la suie, vers quel péril mon visage pâle se dirige-t-il? La rétine bloquée sur le marbre, sur les tuiles détachées des arbres. Et soudain, par les lueurs, me voilà traversé. Par les lueurs, oh soudain, par les lueurs, nous voilà traversés par les lueurs, oh soudain.
Les grandes métropoles de l'Antiquité. Elles ont vu le jour il y a plus de 2000 ans aux quatre coins de la Méditerranée. Ce sont les premières villes de renommée mondiale de l'histoire. La population se concentre dans des lieux où se développent les arts, le commerce et les sciences.
extrait du documentaire Les Destins d'Alexandrie.
Dans leur lutte pour le pouvoir et l'influence, ces cités mythiques rivalisent de magnificence en érigeant des bâtiments toujours plus somptueux. Ces métropoles attirent des hommes venus de tous les pays et de toutes les cultures en quête d'une vie meilleure.
Monumental, aujourd'hui, Alexandrie. Avec Charles Mella et Frédéric Meury, directeur et commissaire de l'exposition Alexandrie la Divine, à voir à la Fondation Bodmer à Cologne.
Quand on parle d'Alexandrie, on pense immanquablement également au phare.
Le phare d'Alexandrie, qui avait été élevé à une hauteur excessive même par rapport aux besoins, puisque je crois qu'elle dépassait 110 mètres, d'après les relations des voyageurs arabes du XIIe siècle. Le phare existait toujours au XIIe siècle, puis il avait été en partie reconstruit. C'est des séismes après qui vont le faire disparaître et l'engloutir. Et c'était l'orgueil d'Alexandrie. C'était quand même une des sept merveilles du monde. Et c'était, s'il était aussi majestueux, c'est pas uniquement pour accueillir les bateaux, mais pour que, on peut dire, l'esprit d'Alexandrie ou sa lumière brille au bout du monde. C'était vraiment important, ce rôle du phare d'Alexandrie. Alors, c'est un des monuments, bien sûr. Il y a les palais royaux, il y a le Sérapion, toutes ces constructions de la ville elle-même, cet urbanisme qui a contribué à faire la richesse et le prestige de la ville, qui est une ville du luxe. Hein, c'est un point très très important. D'ailleurs, Alexandre était un bâtisseur de ville. Partout où il passait, là, c'est la seule ville qui a gardé le nom d'Alexandrie, mais partout où il est passé, il a fondé une dizaine d'Alexandries jusqu'en Bactria, jusqu'en Afghanistan, si vous voulez. Donc c'était important pour lui. C'est toujours dans le mythe ou la légende d'Alexandre, il voulait réunir tous les hommes, comme il disait, réunir tous les hommes sous une même loi de raison, avec une éducation, la fameuse paideia grecque. C'était quand même ça qui était le projet civilisateur d'Alexandre, puisque pour les Grecs, la civilisation était égale à la Grèce à cet égard. Mais en même temps, Alexandre reconnaissait ou accueillait les coutumes et les mœurs du monde perse qu'il conquérait.
Ici se dressait l'une des sept merveilles de l'Antiquité, le magnifique phare d'Alexandrie. Bonjour, je suis John Chesterton.
Et moi, je suis Richie Kohler. Selon la légende, le phare s'élevait à 450 mètres et sa lumière était visible en mer à une distance de 50 km.
Depuis des siècles, les mythes et la réalité se croisent autour du phare d'Alexandrie. Et il est souvent bien difficile de les distinguer. Nous avons toutefois quelques certitudes. L'édifice a été construit en 290 avant Jésus-Christ et a gardé l'entrée du port pendant 1700 ans. À travers les siècles, il a résisté à de nombreux tremblements de terre qui ont détruit temples et palais. Mais en 1302, un nouveau séisme a provoqué son effondrement dans la Méditerranée. Et depuis, il marque par son absence.
Ce qui m'amuse dans le phare, c'est sa rampe à l'intérieur. C'est drôle, hein, parce oui. qu'il y avait une. Pour faire brûler ce feu en permanence, il fallait des quantités énormes d'huile ou de combustible. Alors, on avait, semble-t-il, c'est comme ça que les auteurs anciens en parlent, construit une rampe à l'intérieur qui permettait à des bœufs de tirer les charrettes. Donc, c'est assez drôle. Hein. C'est comme si aujourd'hui, on, dans une tour, on construisait une sorte de rampe circulaire pour qu'un camion puisse venir monter tout en haut. Donc, ça dit un petit peu les proportions gigantesques de cet édifice, parce que plus de 100 mètres avec des pierres taillées à la main qu'on monte une à une avec des bœufs, faut quand même s'imaginer. C'est à peu près aussi. Invraisemblable comme construction que la pyramide de Gizeh, finalement, hein, même si. Enfin, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, je sais pas s'il y a plus de pierres.
L'édifice était carré d'abord, avec 82 mètres 35 de côté, suivant la description donnée par l'auteur arabe du XIIe siècle. Et là, la porte du phare est élevée, une rampe a été aménagée pour y accéder, d'une longueur de 183 mètres. Cette rampe repose sur une voûte cintrée, pareille à une arche. Le cavalier pénètre sous un de ses cintres, etc. Et en élevant la main, il n'atteint pas les plus élevés d'entre eux. Donc c'est une construction absolument gigantesque et monumentale.
C'est vrai qu'il y a une fonction de symbole très forte, mais cette hauteur permettait aux navigateurs de voir, de prendre la bonne direction depuis très loin, hein, depuis, je crois, deux jours avant l'arrivée.
Deux jours là, c'est ça ce qu'ils disent.
Il y a aussi quand même une utilité, hein. À l'époque, on est quand même tributaire des vents, on a des bateaux qui sont peu manœuvrables, qui sont lents, et puis toute cette côte égyptienne qui est, depuis la nuit des temps, depuis l'Égypte ancienne, assez dangereuse, hein, et sur tout ce côté-là, si j'ai bien compris. Donc, on a aussi une fonction rassurante, hein. Quand on veut asseoir toute la richesse d'une ville sur le trafic maritime, c'est finalement peut-être pas aussi inutile que ça d'aller de construire un édifice aussi important.
Aujourd'hui, plus de 4 millions de personnes vivent dans la deuxième ville d'Égypte. La métropole moderne a enseveli la ville antique sous l'asphalte et le béton. Mais profondément enfouie sous la cité, mais aussi dans le désert égyptien, on trouve encore des témoignages du mystérieux passé d'Alexandrie.
La question que vous posiez tout à l'heure sur les monuments qui ont tous disparu peut trouver quand même une réponse si on descend dans les nécropoles et si l'on va sous terre. Et c'est là que l'on voit les types de colonnades que l'on avait en haut, et d'ailleurs ces types de colonnades que l'on trouvait dans toutes les villes vraiment importantes du monde gréco-romain.
Il y a encore du travail d'ailleurs à Alexandrie, hein, du point de vue de la recherche archéologique.
Ah ben, il y en a plein d'ailleurs, c'est assez drôle, on a assisté à quelque chose d'assez amusant il y a quelques semaines avec Charles, parce qu'il y a une nouvelle qui a été diffusée par un site de presse, c'était un canular, hein, qui a dit qu'elle a découvert enfin de la tombe d'Alexandre, c'était drôle. Mais non,
bon, ça c'est le rêve des archéologues, bah voilà, de trouver le tombeau, voilà, d'Alexandre le Grand.
Mais il n'y a pas que ça, hein, quand on pense qu'on est... je pense que n'importe où, supposer qu'on puisse creuser n'importe où comme on veut, on trouverait de toute façon énormément de choses. C'est évident, hein, parce que... Alors on ne trouverait pas forcément la tombe d'Alexandre, puisqu'il semble qu'elle ait été très tôt perdue, hein, même pour les gens à la fin de l'Antiquité, on n'en parle plus.
César la voyait.
César la voyait, je crois que le dernier empereur à l'avoir vu, c'est tout au IIIe siècle.
Caracalla, peut-être, je crois.
Oui, c'est possible, le deuxième. Donc, au bout d'un moment, elle disparaît, on ne sait plus ce qu'il en est. Mais bon, il n'y a pas que ça. Il y a énormément de découvertes à faire, et d'ailleurs, à chaque fois que les archéologues creusent quelque part... D'ailleurs, ce n'est pas les archéologues qui découvrent, en fait, Alexandrie, c'est les chefs de chantier, c'est les ouvriers.
C'est quand on installe des lignes téléphoniques, oui, les canalisations...
Exactement. Mais alors là, ça fait, évidemment, ça n'arrange pas la vie quotidienne, parce qu'il faut arrêter le chantier, et puis si jamais on trouve quelque chose de vraiment important, ben, on ne peut plus rien construire dessus, donc c'est quelque chose qui entrave aujourd'hui encore le développement de la ville, mais c'est voilà.
Monumental.
Depuis le 5 avril et jusqu'au 31 août, se tient à la Fondation Martin Bodmer l'exposition Alexandrie la Divine. C'est un gros, gros travail. Comment est née finalement cette exposition ?
Écoutez, c'est un projet qui m'a été proposé par Frédéric Meury. Nous avions déjà travaillé ensemble, toujours à son initiative, lorsque nous avions présenté l'exposition sur Orient-Occident, racines spirituelles de l'Europe. C'était en 2009 et 2010. Et sur la lancée, Frédéric a continué et il a conçu ce projet. Et là, il a eu le mérite de réunir toute une équipe de chercheurs parmi les plus grands savants qui se trouvaient aux hautes études, qui venaient de l'école normale supérieure, qui se trouvaient au Collège de France, qui se trouvaient aussi dans les universités de Genève et de Lausanne. Non, mais c'est vrai, de Fribourg. Et donc, il y avait, si vous voulez, on peut dire là, une sorte de réunion...
De mise en commun, finalement, du savoir.
Mise en commun,
c'est la,
oui,
bibliothèque d'Alexandrie.
Bien sûr. On a eu des réunions au Château Mercier, d'ailleurs à Sierre, où avec cette équipe scientifique, on était en train de mettre en place les grands axes de cette recherche et qui allait être le livre, n'est-ce pas ?
Donc exposition plus livre.
C'était d'abord une recherche, c'était d'abord qui devait produire un nouveau savoir sur Alexandrie. Et il y a dans ce travail quelque chose de neuf qui est apporté, ce qui relève de ce qu'on appelait les sagesses barbares. C'est là l'élément nouveau qui a été mis en place. Ce travail-là, une fois qu'il a été accompli et qui a conduit aussi à un grand nombre de de voyages sur place, d'où des campagnes photographiques sur lesquelles Frédéric Le Rip pourra parler abondamment, puisque c'était lui qui en a été le, qui au fond les a conduites. Ce travail-là nous a permis après d'envisager de faire une exposition.
Ça veut dire que le livre et l'exposition sont complémentaires complètement.
Tout à fait, ils sont tout à fait complémentaires, oui, parce que oui. L'idée c'était vraiment de faire du livre une exposition idéale par le biais de la photographie, c'est-à-dire de montrer, d'être sans limite, de pouvoir montrer même ce qu'on ne peut pas exposer parce que ça ne voyagera pas ou parce que c'est interdit d'exposition par telle ou telle institution, mais là on l'a sous les yeux et par le biais de... Pour que ça fonctionne, je suis un petit peu superstitieux, donc j'ai utilisé uniquement de la technique analogique, une chambre en format avec des films comme dans l'ancien temps. Il y a des gens qui savent même plus ce que c'est drôle, hein, quand vous expliquez à des policiers sur les sites, vous faites de la photo, vous devez leur expliquer comment ça marche, parce qu'ils pensent que vous faites de la vidéo, hein, parce que c'est complètement anachronique. Mais je suis parti de ça parce que le négatif photographique est un objet qui existe, qui est concret, c'est pas un fichier numérique, parce qu'un fichier numérique n'est pas concret, c'est un ensemble de 0 et de 1 dans un ordre particulier qui va créer l'image. Mais le négatif, il est vraiment imprimé par la réalité, donc finalement, il n'y a pas de rupture entre le site ou le papyrus que vous montrez, et ce qui est reproduit dans le livre, il y en a de moins, et comme je suis un petit peu superstitieux, je me suis dit que c'était intéressant d'aller jusque-là, même si c'est beaucoup plus compliqué et plus cher et tout ce qu'on veut, pour que l'émotion passe, pour que quelque chose de l'objet passe, un petit peu comme ces superstitions.
Ce que nous donne l'exposition, c'est l'émotion. Même s'il y a une somme considérable de science derrière l'exposition elle-même et le travail, elle n'est pas rébarbative. On a voulu communiquer quelque chose qui est toutes les traces, les vestiges de notre culture. Et ça, c'est un point que même les plus jeunes peuvent découvrir.
Monumental.
Carrefour des civilisations anciennes, Alexandrie rassemblait jadis toutes les connaissances du monde. Pendant 2000 ans, elle s'est drapée de légendes et de mystères, puisque tous ses monuments, ses palais et ses temples avaient disparu. Mais les Grecs et les Romains ont transmis son héritage à l'Europe et au monde moderne. Les fouilles du port ont révélé de fabuleux secrets sur l'ancienne Alexandrie. Les scientifiques poursuivent leurs recherches, et les mystères d'Alexandrie, de ses monuments et de ses palais perdus, seront bientôt percés à jour. Sous peu, la splendeur de cette ville légendaire et fascinante renaîtra et recommencera à rayonner sur le reste du monde.
Aujourd'hui dans Monumental, nous parlions d'Alexandrie en compagnie de Charles Mella et Frédéric Maury, directeur et commissaire de l'exposition Alexandrie la Divine, une exposition à voir à la Fondation Bodmer à Cologny jusqu'au 31 août. Et n'oubliez pas que Monumental vous accompagne cet été en nouvelle diffusion tous les jours de la semaine de 16h à 17h. Rendez-vous lundi et il sera question de Mexico Tenochtitlan.
rts.ch/monumental.
It is not the end of the world, but it's not the beginning either. Sometimes my soul is black, refusing to see the shore. It is not the end of the world, but it's not the beginning either. Sometimes sadness is too strong, refuse to see
another shore. If I speak to you in English, oh, this is to relieve my trouble with very simple words. I must accept the swan song. It is not the end of our love, but it's not the beginning either. Sometimes birds fly alone, but everything is illusion. It is not the end of the world, but it's not the beginning either. Everything must disappear. One day the sun will not return. It is not the end of the world, but it's not the beginning either. I cannot tell you in French. It's too private to be sung. It is not the end of the world, but it's not the beginning either. It is not so sad to tell the truth. Only love is immortal. It is not the end of the world. It's only the end of my world. But it's always the beginning. I must accept the swan song. It is not the end of the world. It's only the end of my world, but it's always the beginning. I must accept this one song.
It is not the end of the world, but it's not the beginning either. It is not so sad to tell the truth. Only love is immortal. It is not the end of the world. It's only the end of my world. But it's always the beginning. I must accept the swan song. It's not the end of the world. It's only the end of my world. But it's always the beginning. I must accept.
rts.ch/monumental.
Strips and ribbons. Now he's sitting in his home. He might as well have fun.
Monumental, une émission de
Joanne Ducey.
Réalisation
Christian Morero.
Recherchiste
Stéphanie Coudray.
Studio de Lausanne
Frédéric Kohler.
Site internet
Dany Sulam.
Programmation musicale
Nathalie Schauenberg.